Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le vieillissement de la population, c'est un défi mondial, un défi qui prend une dimension singulière. Sur le continent africain, où contrairement à ce qui est communément admis dans l'opinion habituée à l'image d'une jeunesse omniprésente, eh bien la population est en train de vieillir. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé qui montrent que de 43 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en 2010, eh bien l'Afrique va passer à 67 millions en 2025 et que ce chiffre devrait atteindre les 163 millions à l'horizon 2050. Des projections qui vont imposer aux pouvoirs publics comme aux familles d'ailleurs d'intégrer, de gérer ce bouleversement démographique. Un défi en termes social pour définir la place des aînés, leur statut dans des environnements parfois moins solidaires, surtout en milieu urbain. Un défi en termes sanitaires aussi pour prendre en charge le vieillissement du corps, les maladies non transmissibles, des pathologies qui entraînent des dépenses conséquentes et nécessitent des soins loin d'être toujours accessibles. Un vieillissement associé également à la dépendance. Défi du vieillissement en Afrique pour avancer en âge dans de bonnes conditions. Émission préparée en partenariat avec Votre Santé Magazine. Bien vieillir en Afrique. On en parle aujourd'hui dans Priorité Santé avec nos invités en ligne de Dakar, le professeur Mamadou Koumé. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Vous enseignez la gériatrie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Diop de Dakar, professeur Koumé, chef du service de gériatrie au CHU de Fane. On va avoir tout à l'heure avec nous en studio le docteur Jean-Pierre Aquino, gériatre, médecin de santé publique, délégué général de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Et puis nous retrouverons au Mali tout à l'heure le docteur Sanidier Touré, directeur de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, appelée aussi la maison des aînés de Bamako. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Vos appels, on les attend à notre numéro 33 84 22 75 75 et puis bien sûr sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Juste avant de donner la parole à nos invités, on vous retrouve, professeur Amadou Gallo Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, président du comité scientifique du magazine Votre Santé. Alors, le sujet du trimestre que vous avez retenu, c'est vieillir en Afrique. Pourquoi ce choix, professeur Gallo Diop?
Mais parce que nous constatons que l'espérance de vie a quand même beaucoup progressé dans nos différents pays et qu'il faut s'arrêter un peu pour réfléchir à propos de ça. Rien n'est prévu pour la personne du troisième âge en Afrique en termes de commodité, de prise en charge, notamment quand ces personnes ont été victimes de maladies laissant des séquelles lourdes. Les familles ne sont pas préparées, les structures hospitalières ne sont pas préparées non plus pour ça. En même temps, il y a un aspect absolument positif du vieillissement en Afrique. C'est que la vieille personne n'est pas considérée comme un poids par la famille. Elle est encore entourée, elle vit encore au sein de la famille, avec tout ce que cela a de positif, mais avec une lourdeur sanitaire qui n'est pas prévue.
Justement là, ce qui distingue le sort des personnes âgées en Afrique, par exemple, à ce que l'on voit dans un certain nombre de cultures occidentales, particulièrement au Nord, professeur Gallo Diop, on peut dire que le vieux fait encore complètement partie de la famille, par exemple par rapport à ce qu'on voit notamment en France avec les maisons, les EHPAD, où on place des fois les personnes âgées.
Pour l'instant. Alors nous, on se demande ce que cela va devenir dans 50 ans, dans 100 ans. Et nous sommes absolument convaincus que les EHPAD et autres vont sûrement venir en Afrique.
Bon, on va en parler pendant cette émission. Merci beaucoup, professeur Amadou Gallo Diop. Je rappelle que vous êtes président du comité scientifique du magazine Votre Santé. Professeur Mamadou Koumé, hein, vous avez assuré la coordination scientifique de ce numéro. Est-ce que les autorités sur le continent africain ont vu venir cette transition démographique associée donc à l'allongement de l'espérance de vie?
Merci, je remercie le professeur Kalodiop de m'avoir fait confiance pour coordonner scientifiquement ce numéro. Il est vrai que le vieillissement du continent africain se fait de manière plus rapide que dans le reste du monde. C'est un défi qui se pose à nos autorités. En 2017, l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO s'est réunie à Abuja et avait donné des instructions à l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé d'assister les pays de la CEDEAO de la sous-région à davantage de politiques pour prendre en charge les personnes âgées. Ça a été fait. Moi, personnellement, j'ai été pris comme consultant et j'ai fait le tour des 15 pays de la région et pour analyser la situation de la santé des personnes âgées et élaborer un plan stratégique qui devra être validé prochainement par cette instance de santé de la CEDEAO.
Alors, une réflexion ouest-africaine, mais pour l'instant, professeur Mamadou Koumé, on en est encore au stade du projet, de la réflexion. Tout cela pourrait déboucher sur un cadre concret avec des mesures ?
Théoriquement, mais il faudra un plaidoyer fort à un très haut niveau pour que les autorités prennent le vieillissement par les cornes et puis mettre en place toutes les mesures que nous avons identifiées pour assurer un bien vieillir dans le continent.
Professeur Mamadou Koumé, la gériatrie, hein, aujourd'hui, c'est une spécialité plutôt rare hein, dans la médecine ouest-africaine.
C'est une spécialité très rare. Bon, en France, la gériatrie a été reconnue en 2004. Nous, la gériatrie a été reconnue par l'instance académique, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur en 2010. Et c'est en 2014 que j'ai été moi-même le premier agrégé de gériatrie dans la sous-région. Si on regarde ce qui se passe dans la sous-région, au Sénégal, nous avons même démarré l'enseignement de la gériatrie dans le cadre du système LMD. Nous avons aussi un enseignement de spécialisation en gériatrie. Et donc, aujourd'hui, pour le moment, nous sommes 8 au Sénégal. Si vous voyez ce qui se passe dans le reste du continent, vous avez autant au Nigeria, dans ce grand continent. Le gros lot est en Tunisie, mais sinon dans le reste du continent, c'est maximum 2 gériatres. Donc vraiment, ce qui caractérise la gériatrie, c'est la rareté des spécialistes dans la sous-région.
Alors, vous l'avez dit, hein, situation différente en France. On salue tout de suite le docteur Jean-Pierre Aquino qui vient de nous rejoindre. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gériatre, médecin de santé publique, délégué général de la Société française de gériatrie et gérontologie. Avec le professeur Mamadou Koumé, on a commencé à brosser très généralement. On n'est pas du tout rentré dans le concret de la consultation ou de la prévention. Cette nouvelle approche de cette spécialité qu'est la gériatrie pour le continent africain. Mais il faut dire, hein, c'est une sorte de préambule. La démographie, ça peut paraître loin de la médecine, pourtant c'est essentiel pour appréhender les différentes populations que l'on va justement traiter. Il y a des implications sanitaires en matière notamment d'offres, en matière de qualité de soins. Comment voir justement cette spécialité, la gériatrie, docteur Jean-Pierre Aquino, est-ce que vous diriez qu'elle évolue avec le temps ou c'est finalement une spécialité assez figée ?
Ce n'est sûrement pas une spécialité figée, c'est une spécialité qui est évolutive, qui, dans les textes administratifs, est née en 2004, donc elle est encore assez récente, mais elle est largement structurée avec des enseignants de qualité, des organisations de plus en plus structurées, et sa grande caractéristique est sûrement la spécificité de la prise en charge et de l'accompagnement de personnes âgées ou très âgées, avec une approche à la fois médicale, psychologique, sociale, environnementale, bref, une démarche globale afin de ne pas méconnaître des solutions adaptable et acceptable pour le plus grand nombre.
Alors, on va parler justement des différentes pathologies qui concernent spécifiquement cette tranche d'âge. Mais première chose, le magazine Votre Santé est intitulé « Bien vieillir en Afrique », même si on parle simplement de bien vieillir. Est-ce que cela se travaille ? Est-ce qu'on peut parler de prévention en la matière, docteur Aquino ?
Alors, il y a deux éléments importants autour du mot « prévention ». Le premier élément, c'est l'anticipation, c'est-à-dire on est en bonne forme, on est robuste, tout va bien et il faut s'appliquer des mesures de prévention pour rester dans la meilleure forme possible, le plus longtemps possible au cours de l'avancée en âge. Et puis, il y a des mesures préventives à adapter au cours de l'avancée en âge, alors que malheureusement, on a rencontré quelques incapacités. Comment vivre dans les meilleures conditions possibles, sauvegarder les compétences de la personne pour une qualité de vie la plus satisfaisante possible.
Je sais bien que ma question est très générale, très globale. Malgré tout, je vous la pose, docteur Jean-Pierre Aquino. Quelles sont les pathologies, les grandes familles de maladies les plus fréquentes qui sont prises en charge par les gériatres en France ?
Alors, je crois que il y a deux grandes pathologies. Tout d'abord, les pathologies cardiovasculaires et puis le cancer. Mais indépendamment de ces deux grandes pathologies, il faut bien comprendre que, bien souvent, une même personne peut présenter plusieurs pathologies. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la polypathologie. Et c'est un exercice au plan médical tout à fait spécifique qui caractérise la discipline.
Parce qu'il peut y avoir des interférences en termes de symptômes, en termes de traitement également.
Exactement, des interférences de symptômes, une nécessaire réflexion sur les traitements les mieux adaptés pour éviter les accidents médicamenteux qui sont malheureusement fréquents. Ce qu'il faut savoir faire dans la pratique gériatrique, mais on ne va pas entrer dans le détail, c'est hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire telle pathologie nécessite impérativement un diagnostic et un traitement adapté, alors que telle autre est plutôt de nature chronique et mérite simplement une surveillance.
Est-ce que justement ce tableau épidémiologique, ces différentes maladies que vous rencontrez en consultation, évolue et en matière d'âge par exemple, est-ce que certaines maladies sont beaucoup plus fréquentes vers 65 ans, on va dire, et d'autres vers 80, voire au-delà ?
Alors, indiscutablement, les populations évoluent. Une femme de 75 ans n'a rien de commun avec une femme de 75 ans il y a 50 ans. Donc, elle est d'ailleurs plus jeune, mieux insérée au niveau social. Mais indépendamment de cette caractéristique sociale, les pathologies prennent des formes qui sont maintenant de plus en plus connues. Les spécialistes repèrent plutôt les premiers symptômes. Il y a une démarche de la connaissance des maladies qui est beaucoup plus structurée. Citons comme exemple la maladie d'Alzheimer, qui a progressé dans la compréhension des symptômes, qui a progressé dans l'accompagnement de la maladie, même si, malheureusement, actuellement, nous ne disposons pas encore de traitements médicamenteux curatifs.
Alors, on a parlé donc de cette fréquence des cancers, des pathologies cardiovasculaires. Professeur Mamadou Koumé, on vous retrouve en ligne de Dakar. Est-ce que vous diriez que la situation est assez semblable du côté du Sénégal et également en matière de profil des patients âgés ? Vous, quand vous dites personnes âgées, est-ce que ce sont les mêmes populations que celles qui sont traitées par les gériatres en Europe ?
Bonjour, professeur Aquino. Pense que nous, au Sénégal, et en Afrique, nous sommes en train de vivre un profil tout à fait différent. Nous vivons en même temps la transition démographique et simultanément avec la transition épidémiologique, c'est-à-dire que le vieillissement de la population avec une persistance des maladies transmissibles, infectieuses et une émergence des maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, en réalité, c'est elles qui posent le problème. Parce que quand on voit un peu l'étude qu'a effectuée l'OMS, le Study on Aging, c'est le top 3 des maladies des cellules sujets âgées, ce sont les pathologies cardiovasculaires, comme l'a dit le professeur Aquino tout à l'heure, les infections oculaires, les infections osseo-articulaires. Mais nous, en tant que gériatres, quand on regarde ça de plus près, il y a ce qu'on appelle les syndromes gériatriques qui émergent. Mais les syndromes gériatriques, pour pouvoir les dépister, il faut avoir les outils appropriés. Or, la plupart des outils disponibles ne sont pas souvent adaptés à l'aspect culturel. Je prends comme simple exemple la maladie d'Alzheimer pour laquelle la démence, le diagnostic est effectué après le Minimental State Examination de Feuerstein, qui n'est pas adapté à notre culture. Que nous avons adapté et nous avons mis en place, développé et validé un test avec le professeur Kamara Touré, ce qu'on appelle le test du Sénégal, qui est un test valide pour évaluer les fonctions cognitives chez une personne âgée analphabète. Et donc nous voyons une émergence de la démence, la dénutrition, les chutes, la polypathologie qui est extrêmement importante, ce qui constitue 40% dans ma série. Et donc nous sommes en train de faire une transition démographique. Mais c'est le même profil. Les cancers aussi se pointent à l'horizon, mais surtout le cancer de la prostate chez l'homme. Mais c'est à peu près le même profil avec un petit retard dû un peu à la persistance encore des maladies infectieuses chez le sujet.
Alors, vous avez cité le cancer de la prostate, justement, il fait partie de ces pathologies du grand âge qui sont plus fréquentes sur le continent africain. Professeur Mamadou Koumé, également un certain nombre de maladies qui concernent la santé oculaire, la vue. Comment on explique, justement, cette surreprésentation de certaines maladies chez les personnes qui vivent en Afrique subsaharienne?
Parce que ce sont des pathologies qui sont naturellement liées à l'âge, mais qui sont de diagnostic facile. Diagnostic facile, et puis les disciplines pour lesquelles ces maladies sont prises en charge sont très développées. L'urologie, je veux dire, est très développée, l'ophtalmologie est très très développée. Donc c'est naturellement que ces gens-là se dirigent vers ces disciplines et qui ont des statistiques qu'ils maîtrisent. Mais sur le plan de la population globale, les gériatres ne sont pas assez encore nombreux pour pointer du doigt un peu l'ensemble des syndromes gériatriques tels que la pathologie et la démence et certaines pathologies spécifiques au sujet âge.
Alors peut-être plus que pour toutes les autres tranches d'âge de la société, la dimension sociale se lie à la dimension médicale justement. En France, on parle régulièrement de la prise en charge des personnes âgées, notamment dans les structures collectives, les EHPAD. Au Sénégal, qu'est-ce qui est prévu au niveau national, professeur Mamadou Koumé, en termes de prise en charge des aînés?
Au Sénégal, nous avons déjà inscrit dans la Constitution la prise en charge des personnes âgées dans son article 17. Et en 2006, le Sénégal a mis en place un plan de soins gratuits pour les personnes âgées appelé le plan Sésame, qui permet à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus d'avoir accès gratuitement dans les structures de santé publique au niveau de la pyramide de santé, postes, centres et hôpitaux. Voilà ce qui a été fait. Et puis ensuite, l'enseignement est mis en place. Et récemment, la première dame, l'épouse du président de la République, a lancé un projet il y a une semaine, appelé Rama, du nom de sa grand-mère, pour venir en aide aux personnes âgées vivant en domicile, en situation de vulnérabilité.
Alors, on va faire le parallèle avec la France. Docteur Jean-Pierre Aquino, vous avez été président du comité national de suivi du plan Bien Vieillir, coordinateur du plan national de prévention de la perte d'autonomie. Quel est le but et l'efficacité de ce type de programme? Est-ce que c'est important, justement, comme ça, de penser à long terme, en termes de stratégie pour cette prise en charge particulière?
Effectivement, c'est essentiel en termes de stratégie et suite aux deux références que vous venez de citer, il faut souligner le travail engagé par le ministère actuellement sous la direction de Dominique Libault qui prévoit un certain nombre de préconisations grand âge et autonomie pour prévenir la perte d'autonomie et financer la dépendance lorsque malheureusement elle survient. Donc, il est important de définir des stratégies qui vont de l'anticipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, au repérage de facteurs de risque, jusqu'à l'accompagnement des personnes en situation de dépendance. Mais au-delà de tout ça, le contexte familial, le contexte social, le contexte environnemental est déterminant. La bonne santé au cours de l'avancée en âge et la qualité de vie au cours de l'avancée en âge dépend bien sûr de mesures d'ordre sanitaire, mais de mesures aussi d'ordre social, d'ordre médico-social et d'ordre environnemental. Lorsqu'il n'y a pas sur le chemin qui mène au supermarché un banc pour se reposer pendant quelques instants,
les mesures simples, hein.
Il est sûr que c'est un handicap supplémentaire qui vient s'ajouter aux troubles visuels d'un octogénaire.
Même chose quand dans le métro, aucune solution autre que d'interminables escaliers, ça complique forcément pour prendre les transports en commun. On connaît bien ça en tout cas dans la capitale française. On va justement revenir sur ces questions clés du statut social hein, des personnes âgées, l'évolution des structures familiales, ça se pose notamment en milieu urbain. Mais on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord Christophe que l'on a en ligne de République démocratique du Congo de Kinshasa. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Madame Caroline.
On vous écoute. On vous écoute. Le professeur Koumé à Dakar vous écoute tout comme le docteur Aquino avec nous en studio. Je dis les deux médecins sont à votre écoute pour répondre à votre question. On vous écoute, allez-y.
Je vous écoute. Oui, je disais par rapport à l'émission, je voulais parler de mon père hein, qui a 77 ans, c'est un retraité. Il vit normalement, il est en forme malgré le rhumatisme qui le dérange parfois. Je me dis peut-être que parce qu'il exerce le métier de menuisier, de charpentier, il le met souvent en mouvement, tennis en mouvement. Bon, je voulais te parler de mon cas, c'est qu'il était de deux, j'ai 43 ans, mais la calvitie est arrivée bien avant, là, dès le jeune âge. Il y a aussi un peu de cheveux blancs. Bon, je me dis, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut peut-être pour ne pas vieillir aussi vite comme ça. Voilà un peu ce que j'avais pour me préoccuper.
Vous trouvez que vous vieillissez plus que votre père, c'est ça la teneur de votre question. Lui a eu un travail, vous le disiez, assez physique en travaillant dans la construction. Il faisait beaucoup d'activités. Vous-même, vous faites des activités physiques, Christophe?
Bon, peut-être la simple marche à pied. Je fais juste la simple marche à pied, mais pas trop d'exercices physiques.
Mais vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vieillir, c'est quelque chose qui vous inquiète.
Oui, bon, je vois que ça va un peu trop vite par rapport aux gens de mon âge. Bon, je me vois un peu trop vieux là. Bon, je veux dire que quand on grandit trop vite, on vieillit rapidement et on meurt avant.
Vous avez peur de vieillir de façon prématurée, docteur Jean-Pierre Aquino. Christophe se sent vieillir. Il trouve que son père, finalement, à 70 ans, il est plutôt pimpant. Il continue de faire des travaux. Il continue d'être alerte, d'être actif. Est-ce que parfois, comme ça, quand on regarde nos aînés, on se dit, ben, ils sont en très bonne forme et moi, comme je travaille encore, peut-être que je ressens aussi une certaine fatigue, j'ai un petit peu du mal à faire face. Est-ce qu'on peut dire qu'un père en bonne santé de 80 ans, on peut dire que demain, nous serons nous-mêmes en bonne santé ou ça n'a aucun rapport?
Le rapport est important à souligner. La génétique et la transmission des caractéristiques de santé par nos parents est un élément démontré sur le plan scientifique. À cela, il faut ajouter que l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du génome, peut modifier notre génome lui-même et nous orienter vers une dynamique très positive, même si nous avions une certaine crainte. Et je cite trois points sur lesquels il convient de jouer à 40 ans, 45 ans ou 50 ans. C'est premièrement une alimentation équilibrée, deuxièmement un exercice physique régulier qui est insuffisant dans bien des cas, et troisièmement la culture du lien social, afin de jouer sur les différentes composantes de la santé qui n'est pas exclusivement de nature médicale, mais aussi, comme vous l'avez dit, de nature sociale. Et puis ajoutons à l'âge de 45 ans l'intérêt de repérer des risques cardiovasculaires éventuels qui vont faire le lit de pathologies pouvant mener à la perte d'autonomie au cours de l'avancée en âge.
Ça veut dire faire un petit bilan de santé éventuellement, au moins aller en consultation chez son généraliste pour voir si tout va bien.
Exactement.
Voilà, Christophe, rassurez-vous en allant voir un médecin, même si vous ne sentez pas une maladie particulière, juste pour qu'il évalue votre situation. Et puis peut-être prendre aussi exemple sur votre père, jardiner, marcher sur de longues distances. Je pense que ça peut pas faire de mal et on vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On va partir pour le Bénin, rejoindre Martin à Sakété. J'espère que je n'ai pas écorné le nom de sa ville d'origine. Sakété, c'est bien ça. Bonjour Martin.
Oui, bonjour Caroline Paré et puis monsieur le docteur.
On vous écoute Martin.
Oui, j'ai quelques préoccupations qui me perturbent là.
Dites-nous, Martin, racontez-nous ce qui vous arrive.
Oui, mes parents vivent, ma maman vit, mon papa vit jusqu'à là où nous parlons. Mais de façon quotidienne, ils sont menacés de plusieurs maladies. Chaque fois, c'est des maladies, ou de bonne partie, de la fièvre. Et ils sont déjà, mon papa vit avec 65 ans, et ma maman traverse déjà 70 ans environ. Mmh. Et chaque fois, c'est des maladies par ici. Et mot de gorge, actuellement que nous parlons, mon papa est malade avec la fièvre et puis le mot de gorge. Je ne sais pas les quelles sont les causes et les conséquences là. Quelle chance tout cela me réserve.
Mais ce sont des fièvres au long cours qu'ont vos parents ou c'est ponctuel comme ça, ils ont des petites montées de fièvre, des douleurs passagères?
Oui, oui. Oui, tout le temps, c'est de, bon, dans l'intervalle de un mois ou bien deux mois, ils sont toujours malades.
Et vos parents vivent encore avec vous? Ils sont autonomes ou ils vivent dans leur propre maison?
Oui, ils sont avec moi. Moi, je travaille à quelque part, je fais le job à quelque part. Ils sont, mon papa vit, ma maman vit aussi. Ils sont avec moi.
Mais vous êtes inquiet pourquoi précisément? Parce que s'ils ont de la fièvre ou des maux de gorge,
oui,
on va dire
oui,
c'est
oui,
comme
oui,
pour les enfants, ce n'est pas très très grave.
Ah, avec tout ça, de façon quotidienne, là, quelle chance tout cela, leur maladie, là, qu'est-ce que ça nous réserve?
Est-ce qu'ils ont consulté des médecins pour ces problèmes?
Oui, ils consultent le médecin, là, et puis ça ne regarde pas un peu.
Et qu'est-ce qu'il a dit, le médecin, quand il a vu vos parents?
Non, il travaille, il fait les soins, il prescrit des ordonnances et on achète.
Donc vos parents sont pris en charge, mais vous êtes inquiet pour leur santé, vous êtes inquiet pour leur avenir.
Oui.
Écoutez, Martin, je vais me tourner vers le docteur Jean-Pierre Aquineau, mais ce que décrit Martin sur l'état de santé de ses parents, ce sont des maux du quotidien. Difficile, bien évidemment, d'expliquer quoi que ce soit à distance, c'est complètement impossible. Mais ce qu'on ressent, en tout cas, de la part de Martin, c'est l'inquiétude de voir ses parents avancer en âge. Docteur Aquineau, on a souvent, comme ça, des personnes, à la limite, qui s'inquiètent plus de l'âge que de l'état de santé réel des parents, des aïeux.
La situation de Martin, parfaitement décrite, mérite quelques explications. En aucun cas, le vieillissement n'est une maladie. En aucun cas, le vieillissement à lui seul peut expliquer des phénomènes qui sont pathologiques, qui sont anormaux. En clair, il faut un diagnostic médical, comme on le ferait à 40 ans, à 50 ans ou à 15 ans. Donc il faut bien dissocier les deux. Le vieillissement est un phénomène physiologique normal qui correspond à l'effet du temps sur les êtres vivants avec des modifications physiologiques qui l'accompagnent, mais en aucun cas il n'explique les symptômes qui sont décrits. Donc il convient de réfléchir et de se poser la question, que se passe-t-il pour expliquer ces épisodes successifs?
Voilà, Martin, vos parents, votre mère, votre père, s'ils ont de la fièvre, s'ils ont mal à la gorge, bien allez, comme tout à chacun, se faire soigner pour ces choses. Pas s'inquiéter au-delà parce qu'ils ont 65 ou 67 ans. Simplement aller chez le médecin et suivre ses conseils. On vous souhaite une très bonne journée au Bénin. On va prendre un dernier auditeur du Cameroun, de Marois. C'est Sylvain qui est en ligne. Sylvain, bonjour.
Bonjour, madame Caroline.
On vous écoute.
Bien, moi j'ai une grand-mère qui t'enverse vers 90 ans.
Mm-hmm.
Cette dernière, jusqu'à présent, elle ne manifeste aucun trouble, comme vous avez cité, tels que les troubles comportementaux, les problèmes auditifs comme visionnaire. Elle n'a pas ces troubles-là. Et je vois, elle est bien en forme, elle se prend en charge jusqu'à présent. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui peut expliquer tous ces phénomènes? Parce que elle n'a pas de symptômes qui peut expliquer qu'elle est avancée en âge, si ce n'est les ramollissements des peaux, qui sont les signes observés chez toute personne âgée.
Elle a des rides, mais sinon elle est en pleine forme. Elle vit où, votre grand-mère? Elle vit en famille? Elle vit où exactement?
Bien, elle vit en famille. Je suis tchadien, elle est au Tchad, dans la région du Maïkébi, mais elle est bien en forme. Elle se prend en charge.
Elle vit au village, elle vit au village, oui. Avec la famille, avec peut-être l'une de vos sœurs?
Bien, elle est dans la famille, c'est une grande famille, elle est là, elle se prend en charge parce qu'elle a même jusqu'à là, elle n'a pas toujours besoin d'aide. Elle va bien de ses occupations champêtres, même les travaux ménagers, elle fait très bien.
Pas de retraite pour la grand-mère de Sylvain, 90 ans, pimpante, elle va au champ, elle est totalement autonome. Ce qui est un peu un retournement, c'est que Sylvain s'interroge, comment ma grand-mère fait-elle pour être aussi en forme, hein? C'est le sens de sa question, docteur Jean-Pierre Aquineau.
La situation de votre grand-mère, Sylvain, est tout à fait exemplaire. Probablement a-t-elle, au niveau de son génome, c'est-à-dire de ses déterminants de santé, une trajectoire tout à fait favorable. Mais à cela, il faut probablement ajouter ses habitudes de vie, de toute sa vie, et surtout, comme elle est au village, ai-je cru comprendre, entourée des siens, elle bénéficie d'un lien social tout à fait appréciable, qui contribue à cette trajectoire de vie qui suscite, je dirais, l'admiration. Ce qui est à souhaiter, c'est que les octogénaires et les nonagénaires de demain soient de plus en plus fréquemment dans une situation de plénitude, de qualité de vie et de satisfaction.
L'intérêt d'aller loin en âge, mais dans une bonne forme et dans une bonne santé, c'est essentiel.
Exactement.
Voilà, très bonne journée, Sylvain Amarois. Et si vous avez bientôt des nouvelles de votre grand-mère, eh bien, saluez-la de la part de toute l'équipe de Priorité Santé. Très bonne journée à vous au Cameroun.
Priorité Santé sur RFI.
On poursuit notre échange autour de la thématique du vieillissement, santé, dépendance. Avec nous en studio, Dr Jean-Pierre Aquino, gériatre, médecin de santé publique, délégué général de la Société française de gériatrie et gérontologie. Et toujours en ligne de Dakar avec nous, le professeur Mamadou Koumé, chef du service de gériatrie du CHU de Fana Dakar. Professeur Koumé, est-ce que la situation, on a beaucoup parlé avec nos auditeurs de ce fameux lien social essentiel pour rester en bonne forme. Est-ce que ce lien évolue en Afrique de l'Ouest, surtout en milieu urbain ?
Ce lien évolue avec l'urbanisation. L'urbanisation, il faut dire qu'avec l'urbanisation, la personne âgée a tendance à perdre un peu de sa place. Parce que, bon, il y a un peu le modèle européen que nous sommes en train de vivre et qui fait qu'il y a un léger effritement de la solidarité familiale envers les personnes âgées. Mais ça va avec la modernité, évidemment.
Un effritement de la solidarité, mais parallèlement, qu'est-ce qu'il en est du côté des structures d'accueil ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui à Dakar ou même ailleurs dans d'autres villes de grande importance en termes de population, des structures collectives prévues pour certaines personnes qui ne seraient plus directement intégrées dans le cercle familial ?
Nous n'avons pas de structure d'accueil, une maison d'accueil pour les personnes âgées. On a juste des structures de gériatrie, mais pas encore des structures d'accueil au plan social. C'est prévu dans notre plan stratégique, mais bon, ce n'est pas encore mis en œuvre.
Alors, docteur Jean-Pierre Aquino, hein, problématique très différente. Au sud, on souligne l'absence d'accueil. Également, il y a la question des retraites, ce système de retraite qui est très loin d'être étendu à l'ensemble de la population. Alors que, en Occident, on va dire, hein, on schématise bien sûr, on insiste davantage sur les conditions d'accueil. On n'est pas dans la même problématique. Il faut dire que les solidarités ne sont pas les mêmes. Les systèmes d'accueil familiaux ne sont plus les mêmes non plus. Est-ce qu'on peut voir, justement, comme au sud, une différence ville-campagne où aujourd'hui c'est relativement uniformisé, y compris quand on parle de l'Europe, dans les structures rurales comme dans les structures urbaines ?
Premier élément de réponse, les solidarités familiales sont fortes. Elles existent, il ne faut pas les oublier, et heureusement que les solidarités familiales s'expriment, car sinon, au niveau des plus âgés comme des plus jeunes d'ailleurs, il y aurait une impossibilité d'un fonctionnement de la société satisfaisant. Concernant l'accueil des personnes âgées, il est sûr que l'accueil et l'accompagnement est de nature différente en milieu urbain et en milieu rural. La situation sociétale actuelle met bien en évidence les disparités territoriales et c'est une réflexion sur laquelle il convient, dans le champ de la gérontologie, de travailler pour permettre les meilleures conditions de vie dans des secteurs un petit peu oubliés. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est le bashing qui a eu lieu sur les EHPAD.
Alors quand on dit bashing, c'est une stigmatisation, une exagération selon vous, hors des termes négatifs.
Exactement, la définition me paraît tout à fait adaptée, car nous rencontrons, et fort heureusement, bon nombre de familles et de retraités qui sont satisfaits du cadre de vie dans lequel ils se trouvent. Mais il est vrai par ailleurs qu'il y a encore beaucoup à faire et que probablement la question qui se pose est celle du bien fondé du modèle actuel des EHPAD qui doit être appelé à évoluer pour mieux répondre aux besoins de la population.
Alors, tout à l'heure, on disait avec le professeur Koumé, absence de structure de ce type au Sénégal. On va voir ce qu'il en est tout de suite du côté du Mali.
Priorité santé sur RFI.
Où on vous retrouve, docteur Sanidié Touré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche, c'est justement dans cette capitale du Mali, Bamako, que vous dirigez l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, une structure qui s'appelle aussi la Maison des aînés. Alors justement, docteur Touré, à quoi ressemble cette Maison des aînés ?
Merci madame. Il faut dire que l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie est un établissement public national à caractère scientifique et technologique doté de la personnalité morale et juridique. Alors, il est demandé à cet institut d'effectuer des études et recherches sur les problèmes, les caractéristiques et les tendances du vieillissement afin que les personnes âgées soient mieux prises en charge dans les plans et programmes de développement socio-sanitaire. Donc, comme vous le voyez, nous sommes un institut de recherche.
Alors, un institut de recherche, mais vous proposez également, docteur Sanillé Touré, des activités aux personnes âgées.
Voilà. Donc, comme notre vision, c'est que il est certes important de faire de la recherche, de recueillir des données sur la situation du vieillissement au Mali, mais nous pensons qu'il est encore plus important que la personne âgée qui est dans une localité du Mali donnée puisse savoir ce qui peut être fait pour cette personne âgée en cas de besoin. Et c'est ainsi donc qu'il est dans les missions de notre institut d'effectuer, d'élaborer des activités qui permettent d'arriver à cela. Je crois que cela est fondé sur la conception même qu'on a du vieillissement dans notre pays. Chez nous, le vieillissement est une chance parce que tout le monde a de la considération pour la personne âgée et cela, je pense, est partagé dans beaucoup de pays. Mais avec l'évolution, la personne âgée peut être une charge et elle peut être même chargée, je m'explique. C'est une chance parce que chez nous, tout le monde veut être lié d'une manière à une personne âgée pour essayer de montrer qu'on est dans une forme d'éducation qui est validée plus ou moins par une personne qui peut vous aider en cas de besoin. Mais la personne âgée, avec le phénomène de l'urbanisation, quelqu'un l'a dit au cours de l'émission, vous avez par exemple les personnes qui n'ont pas suffisamment de pension, qui se trouvent dans une certaine précarité. Vous avez aussi des personnes qui viennent de l'intérieur du pays, du monde rural, qui se retrouvent à Bamako et qui très souvent sont dans des situations très précaires, soit à la suite de soins ou tout simplement pour trouver de meilleures conditions de vie. Parce que là aussi, au niveau du monde rural, il y a eu l'exode rural. Les enfants sont partis ailleurs et il est donc difficile de trouver une bonne vie. La personne âgée est chargée en ce sens que, avec le problème de l'emploi, vous avez des personnes âgées qui prennent en charge la descendance. Et quelquefois plus loin, ils prennent en charge les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire leurs petits-fils. Et là, souvent, c'est très délicat et c'est très difficile. Souvent, quand vous échangez avec les personnes âgées, on vous fait ressortir ce problème. Mais au niveau de notre structure, nous sommes surtout engagés à faire en sorte que les maisons d'hébergement pour personnes âgées soient le plus loin possible au Mali. Et c'est pourquoi donc, il a été mis en place des équipes mobiles d'intervention qui nous permettent d'aller vers ces personnes âgées, de voir quels sont les problèmes auxquels ces personnes âgées sont confrontées.
Ça veut dire que vos équipes, pour parler concrètement, elles interviennent en dehors des murs de votre structure. Vous allez à la rencontre des personnes qui sont justement dans la nécessité.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on a appelé les équipes mobiles d'intervention. Nous avons mis en place cet outil grâce à un professeur de Paris 8, Ismaël Maïga, qui nous a aidé donc à mettre cet outil en place. Et avant, nous avons fait des tests dans beaucoup de localités pour voir sur le plan médical quel est le problème qui est posé, sur le plan social quel est le problème qui est posé, sur le plan de l'accompagnement psychologique comment le problème est posé. Et tout cela, nous l'avons mis dans une activité ici que nous avons appelée une journée intergénérationnelle. Alors la journée intergénérationnelle, en quoi elle consiste? Nous faisons venir une vingtaine de personnes âgées, des hommes et des femmes. Nous leur servons un petit déjeuner. Nous leur proposons un thème à débattre animé par des étudiants. Et à un moment donné, on fait venir des enfants d'âge préscolaire qui chantent, dansent. Et inversement, les personnes âgées le font autant. Et après tout ça, on fait la synthèse. Et les personnes âgées retournent avec des cadeaux après avoir fait une simulation de mariage entre les personnes âgées et les enfants d'âge préscolaire. Bref, on fait de l'animation et nous nous sommes rendus compte que c'est une activité qui plaît beaucoup aux personnes âgées.
Avec des animations et des initiatives concrètes, justement, comme vous le soulignez, intergénérationnelles, très important pour maintenir le lien de ces personnes. Docteur Sanillé Touré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison des aînés à Bamako.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
On a bien compris, cette structure n'est pas une structure d'accueil, plus une structure d'échange et de partage. Professeur Koumé, est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type en Afrique de l'Ouest, puisqu'on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, vous avez travaillé sur un plan stratégique sur l'ensemble de cette communauté ouest-africaine?
Mais c'est une très belle initiative au Mali. J'avoue qu'ils ont eu cette chance au Mali d'avoir, à l'époque du président Konaré, un ministère chargé des personnes âgées. C'est là qu'est partie cette institution qui doit progresser davantage. Si on regarde un peu les soins communautaires, vous avez des exemples similaires au Cap-Vert. Au Cap-Vert, vous avez une vingtaine de maisons comme ça qui accueillent des personnes âgées, des accueils de jour. Vous avez une structure comme ça au Ghana. Vous en avez un projet au Nigeria, mais les deux pays vraiment où il y a cette structure qui commence à avoir une expérience et qui me sert de modèle pour proposer quelque chose dans la sous-région, c'est bien sûr le Cap-Vert et le Ghana.
Docteur Jean-Pierre Aquino, cette notion de considération qu'on évoquait tout à l'heure avec le docteur Sanié Touré à Bamako au Mali, ce respect, voire même ce rôle social de modèle qu'a encore, on va dire, le vieux, parce qu'on le dit comme ça, sans manquer de considération en Afrique, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a aussi maintenant une problématique au-delà, on va dire, du social, du sanitaire, de cette fameuse considération, on peut même dire dans certains cas de discrimination contre lequel il faut lutter, ou c'est encore quelque chose qui n'existe pas dans les sociétés occidentales?
Il y a un péril qui s'appelle l'agisme, c'est-à-dire la discrimination liée à l'âge. Et on peut noter au niveau de l'organisation sociale que parfois l'exercice de certains droits est difficile lorsqu'on avance en âge, que la possibilité d'obtenir un prêt s'avère compliquée, voire onéreux. Bref, cette discrimination par l'âge est un péril que nous devons de dénoncer d'abord et de tenter de maîtriser ensuite. Un autre point relatif à cette question, c'est la nécessité, me semble-t-il, d'organiser la société pour qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire permettre au plus grand nombre des personnes âgées, voire très âgées, d'y trouver leur place sans être marginalisées, sans être mises de côté, pour exercer leur plein droit de citoyen.
Est-ce que ça veut dire que quand on est gériatre, docteur Aquino, on intègre justement cette pluridisciplinarité, le mot est compliqué mais j'y suis arrivée, qui est aussi bien en termes social, sanitaire, que, on vient de le comprendre, d'une certaine manière, moral?
C'est capital. Sinon, nous avons un exercice qui est parcellaire, qui est fragmentaire et qui manque d'une vision beaucoup plus globale. Donc, il est nécessaire d'exercer la pluridisciplinarité et de permettre, grâce à cette pluridisciplinarité, de tracer une voie différente d'une voie purement technique.
Avec, toujours, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, on va finir par boucler la boucle, des mesures de prévention qui sont indispensables pour bien vieillir.
Exactement. Alors, la Fondation Médéric Alzheimer a publié récemment un livre plaidoyer, alors sur la maladie d'Alzheimer, mais les trois grandes pistes qui sont évoquées vont tout à fait dans le sens de notre discussion, puisque ce plaidoyer propose tout d'abord organiser la prévention, ensuite améliorer l'accompagnement des personnes âgées et ensuite bâtir une société inclusive.
Merci beaucoup d'avoir participé à Priorité Santé, émission préparée aujourd'hui en partenariat avec Votre Santé Magazine. Merci à vous, professeur Mamadou Koumé, de nous avoir accompagnés en ligne de Dakar, où vous êtes le chef du service de gériatrie du CHU de Fane, et à vous, docteur Jean-Pierre Aquino, gériatre, médecin de santé publique, délégué général de la Société française de gériatrie et gérontologie, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. On parle alimentation et santé tout de suite avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali, nutritionniste. Alors cette semaine, on va parler de la NASH, ou maladie du soda, maladie donc qui touche le foie. Vous pouvez nous décrire, pour commencer, Stéphane, la nature de cette pathologie?
Alors déjà, la définition de la NASH, donc en anglais, c'est non-alcoolique stéatopathie 6, qui se traduit en français par une stéatite non-alcoolique. Et en fait, de manière vulgarisée, c'est très souvent appelé la maladie du soda ou la maladie du foie gras humain. Et en fait, cette maladie se caractérise par un dépôt et une accumulation très importante de graisse dans le foie qu'on appelle stéatose. Et c'est ce processus qui va engendrer une inflammation et des gonflements des cellules du foie. Alors, même si la prévalence de la NASH aujourd'hui est faible, à peu près 3%, on sait que c'est très sous-estimé parce que c'est quelque chose qui commence à être diagnostiqué depuis peu de temps et on pense vraiment que c'est une maladie qui est beaucoup plus présente que ce qu'elle est communiquée aujourd'hui. Alors, son incidence en plus va augmenter fortement pour les gens qui ont des facteurs de risque du diabète comme de l'obésité ou même du diabète. Et chez certaines populations, on se rend compte qu'on peut atteindre 50% de gens qui ont une NASH, par exemple chez des diabétiques ou chez des obèses.
Alors, à quoi est due la maladie? Et du côté du dépistage, comment on apprend, comment on sait qu'on est atteint de NASH?
Alors, elle est principalement causée par une alimentation déséquilibrée sur le long terme. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre, c'est que c'est une maladie qui s'installe dans le temps. C'est pas juste d'avoir un mois ou deux mois d'alimentation déséquilibrée. Et c'est principalement le lien à la consommation de sucre qui est mise en exergue. C'est pour ça qu'elle est souvent dans les médias communiquée comme la maladie du soda. Et son dépistage est assez difficile parce qu'il y a peu de méthodes, j'allais dire non invasives, c'est des méthodes assez lourdes, comme de la biopsie par exemple. Donc c'est un dépistage en plus qui se fait pas de routine, j'allais dire. Et le dernier problème avec cette maladie, c'est que c'est une maladie qui a peu de symptômes. Et quand les symptômes arrivent, la fatigue, la jaunisse ou les hémorragies, c'est que la maladie est déjà installée et que c'est un peu tard. Donc c'est vrai que c'est une grosse difficulté d'avoir un dépistage qui est à la fois difficile à faire, invasif et pas agréable, et en plus avec des symptômes qui sont tardifs.
Alors, du côté de la prise en charge, Stéphane, quel traitement quand le diagnostic est posé, le diagnostic de NASH?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médicamenteux au sens du terme. Il y a des choses qui sont en recherche, mais il n'y a rien sur le marché. Donc le seul traitement qui reste aujourd'hui, enfin pas qui reste, qui est présent d'ailleurs, c'est un traitement, j'allais dire, des mesures, ce qu'on appelle d'hygiène de vie, c'est-à-dire à la fois nutrition avec une baisse des acides gras, des graisses du coup, avec une baisse aussi de la consommation de sucre et une reprise de l'activité physique. Alors avec une activité physique qui va plutôt être une activité d'endurance pour justement brûler ces acides gras libres et remettre tout le système en fonctionnement. Il faut savoir que cette prise en charge, elle est impératif dès que c'est diagnostiqué d'être très proche parce que cette maladie-là va entraîner des cirrhoses. Alors pour rassurer nos auditeurs, enfin pas les rassurer d'ailleurs, mais communiquer là-dessus parce que c'est important. Souvent les gens ont un peu honte de dire qu'ils ont une cirrhose liée à la NASH parce que la cirrhose est souvent liée à l'alcoolisme. Or cette cirrhose-là, il faut le dire et le redire, n'a absolument rien à voir avec l'alcoolisme. Des gens qui n'ont jamais bu une goutte d'alcool peuvent avoir une cirrhose liée à la NASH.
Alors qui prend en charge, Stéphane, cette maladie? C'est à la fois un spécialiste du foie, un hépatologue et un nutritionniste ou un généraliste? Comment ça se passe?
Alors, on est plutôt sur une prise en charge hospitalière. Et la grande question en général qui est posée par les personnes, c'est comment on évite? Comment soit on prend en charge, soit on évite? Donc, eh bien, il faut revenir aux recommandations nutritionnelles un peu classiques qu'on donne beaucoup dans cette émission, qui sont de ramener à une alimentation avec moins de grignotage, de diversifier, d'intensifier les fruits et les légumes, de réduire la consommation, ce qu'on a dit tout à l'heure, de graisse, de sucre en excès, surtout toutes les boissons
boire de l'eau,
effectivement, et avoir aussi un apport adéquat en micronutriments, et ça sera grâce aux fruits et aux légumes, et bien sûr, revenir aux recommandations de l'OMS, qui sont de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée par jour pour allier à la fois alimentation, activité physique. On prévient, et si jamais on a un surpoids et qu'on a un début de NASH, ça permettra aussi de traiter ça.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. À très bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. Ophélie Lassène, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, reportage consacré à la mesure de la charge virale pour les personnes porteuses du VIH au Burundi. Reportage signé Igor Strauss. À demain.
Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.